Scène quatrième. Le jardin. Le printemps est venu. La brise d'une nuit d'avril redresse les feuilles des fleurs endormies. La lune règne en souveraine dans un ciel sans nuages et sans étoiles. Le calme de ses heures nocturnes s'étend partout, sur la terre et sur la mer. Dans une villa, sur le rivage occidental de l'île de Wight, les portes vitrées qui donnent dans le jardin sont encore ouvertes. La lampe, protégée par un abat-jour, brûle encore sur la table. Une dame est assise près de cette table et lit. De temps en temps, elle regarde dans le jardin et arrête ses yeux sur une jeune fille, vêtue d'une robe blanche, qui se promène lentement sur la pelouse à la douce clarté de la lune. Les chagrins et l'attente ont imprimé leurs traces sur le visage de la dame. Non seulement ses rivales, mais encore ses amis, qui naguère encore l'admiraient, s'accordent maintenant à dire qu'elle a l'air fatiguée et vieillie. D'autres, plus indulgentes dans leur jugement, prétendent avec raison que ses yeux, sa chevelure, sa grâce simple et l'ampleur de ses mouvements n'ont presque rien perdu de leur charme. La vérité, comme de coutume, se trouve entre ces deux appréciations extrêmes. En dépit de ses douleurs et de ses souffrances, Madame Crayford est toujours la belle Madame Crayford. Le délicieux silence de cette heure avancée de la soirée est doucement troublé par la voix de la jeune fille qui se promène dans le jardin. « Mettez-vous au piano, Lucie, c'est une soirée faite pour la musique. Jouez quelques morceaux qui soient dignes d'une telle nuit. » Madame Crayford se retourne vers la cheminée et regarde à la pendule. « Ma chère Clara, il est plus de minuit. Rappelez-vous ce que le docteur vous a dit. Vous devriez être couchée depuis une heure. » « Une demi-heure, Lucie, je ne vous demande qu'une demi-heure encore. Voyez le clair de lune sur la mer. Est-il possible d'aller se coucher avec une nuit pareille à celle-ci? Jouez quelque chose, Lucie, quelque chose qui s'adresse à l'âme et l'élève vers le ciel. » Tout en formulant cette prière qu'elle adresse avec instance à son amie, Clara s'avance vers la fenêtre du salon. Elle aussi a beaucoup souffert des peines incessantes d'une longue attente. Sa figure a perdu sa fraîcheur juvénile. Nulle coloration délicate ne s'y fait plus remarquer lorsqu'elle parle. Les yeux, d'une teinte si douce et qui ont gagné naguère le cœur de Franck, portent maintenant l'empreinte d'une sombre tristesse. Au repos, ils n'ont que des regards obscurs et fatigués. Quand elle s'anime, ses regards semblent sauvages et inquiets, comme ceux d'une personne qui se réveille en sursaut d'un rêve qui la fait tressaillir. Vêtue d'une robe blanche, elle laisse flotter sur ses épaules ses cheveux bruns dont la nuance est si douce. Il y a quelque chose de fantastique et de surnaturel dans cette jeune fille quand elle s'approche pas à pas de la fenêtre sous la pleine lumière de la lune en sollicitant un morceau de musique qui soit digne du mystère et de la beauté de cette nuit. « Consentirez-vous à rentrer si je me mets au piano ?» lui demande Madame Crayford. « Il y a du danger, ma chérie, à rester dehors, exposée à l'air de la nuit. »« Non, non, j'aime sentir cet air. Jouer pendant que je reste ici à contempler la mer. Cela me calme, cela me ranime, cela me fait du bien. » Elle retourna, semblant glisser comme un fantôme sur la pelouse. Madame Crayford se leva, mit de côté le livre qu'elle lisait. C'était un récit des explorations qui ont eu lieu dans les mers du pôle Nord. Le temps n'est plus où ces deux femmes pouvaient s'intéresser à des récits qui n'avaient pas de rapport avec le sujet de leurs propres inquiétudes. Maintenant, quand toute espérance les a presque abandonnées, maintenant, quand les dernières nouvelles qu'elles ont reçues du Wanderer et du Sea Mew remontent à plus de 2 ans, elles ne sauraient rien lire que des livres qui leur racontent les dangers, les découvertes, les naufrages, les sauvetages qui ont eu les terribles mers polaires pour théâtre. Ce fut avec répugnance que Madame Crayford mit son livre de côté et ouvrit son piano. Le thème varié de Mozart en ut était sur le pupitre. Elle joua, l'une après l'autre, les délicieuses mélodies, d'une beauté si simple et si pure, de cette œuvre sans prétention et sans rivale. À la fin de la 9e variation, qui était le morceau favori de Clara, elle s'arrêta et tourna les yeux vers le jardin. « Est-ce assez ?» demanda-t-elle. Elle n'obtint point de réponse. Clara s'était-elle assez éloignée pour n'avoir pas entendu cette musique qu'elle aimait tant, cette musique qui était si bien en harmonie avec la douce beauté de la nuit? Madame Crayford se leva et s'approcha de la fenêtre. Non, la blanche forme de Clara est toujours debout sur la pente de la pelouse, le dos tourné à la maison, les yeux fixés sur la mer, dont les eaux à peine ridées s'étendaient jusqu'à la ligne obscure de l'horizon, qui est la ligne tracée par les côtes d'Angleterre. Madame Crayford s'avance jusqu'au sentier qui serpente devant la fenêtre et appelle de nouveau. « Clara !» Point de réponse encore. Clara est toujours immobile à la même place. Chagrinée, mais non alarmée, Madame Crayford rentre dans le salon. Sa triste expérience lui apprend ce qui est arrivé. Elle sonne ses servantes et leur recommande d'attendre dans le salon qu'elle les appelle. Puis elle retourne dans le jardin et s'approche de Clara. Morte pour le monde extérieur, comme si elle était déjà dans la tombe, insensible au toucher, insensible au bruit, sans plus de mouvement qu'une pierre et non moins froide, Clara reste debout sur la pelouse. Elle est éclairée par la lune et fait face à la mer. Madame Crayford attend avec patience à côté d'elle le changement qui ne tardera pas, elle le sait, à se produire dans son état. Dans la catalepsie, comme quelques-uns appellent sa maladie, il y a cela de certain que l'accès n'a qu'une durée qui est toujours la même. C'est ce qui arrive cette fois encore. Nul changement ne se manifeste d'abord dans ses yeux. Ils sont toujours tout grands ouverts, fixes et vitreux. Le premier mouvement que fait Clara se produit dans ses mains. Elle les élève en l'air et les porte en avant, comme une personne qui marche dans l'obscurité. Un autre moment s'écoule et ses lèvres se meuvent à leur tour. Elle s'entrouvre et tremble. Encore quelques minutes et des mots s'en échappent, lentement, l'un après l'autre, d'une voix sourde et comme si elle parlait en dormant. Madame Crayford tourne les yeux vers la maison. Une triste expérience lui faisait craindre la curiosité de ses servantes. La même expérience l'avertissait qu'il ne faudrait pas se fier à celles-ci si elles étaient en position d'entendre les étranges paroles que Clara prononce durant ses accès. Une d'elles ne se serait-elle pas glissée dans le jardin? Non, elles sont toujours dans le salon où elles ne peuvent entendre Clara et attendent le signal qui leur dira que leur aide est nécessaire. Se retournant de nouveau vers Clara, Madame Crayford l'entendit prononcer d'une voix sourde des mots qui se succédèrent de plus en plus rapidement. « Frank, Frank, ne restez pas en arrière. Ne vous fiez pas à Richard Wardour. Tant que vous pourrez, restez avec le gros du détachement, Frank !» C'était l'avertissement donné par Crayford dans les solitudes de la mer glaciale, répété par Clara dans le jardin de la villa anglaise. Elle se tait un moment, et dans ce moment, sa vision change de scène. Elle voit Frank sur la montagne de glace, à la merci du plus impitoyable ennemi qu'il ait sur la terre. Elle le voit flottant sur la mer sombre, à travers un jour blafard. « Éveillez-vous, Frank! Éveillez-vous et défendez-vous! Richard Wardour sait que je vous aime. Il veut se venger et vous donner la mort. Éveillez-vous, Frank! Éveillez-vous! Vous marchez à votre perte !» Un long cri d'horreur s'échappa de sa bouche, cri sinistre et effrayant à entendre. « Il marche à sa perte » murmura-t-elle encore. « Il marche à sa perte !» Le nuage qui couvrait ses yeux s'évanouit et ils se fermèrent. Un long frisson parcourut tout son corps. Une légère rougeur colora un instant ses joues, pâle comme celle d'une morte, et disparut ensuite. Ses jambes plièrent sous elle et elle tomba dans les bras de Madame Crayford. Les servantes, répondant à l'appel de leur maîtresse, la transportèrent dans sa chambre et la déposèrent sur son lit dans un état de complète insensibilité. Après une demi-heure ou un peu plus, ses yeux se rouvrirent, pleins de vie cette fois, et ils laissèrent tomber un regard languissant sur son amie assise près de son lit. « J'ai eu un terrible rêve, » dit-elle d'une voix faible. « Suis-je malade, Lucie? Je me sens bien faible. » Tandis qu'elle dit ces mots, le sommeil, un sommeil bienfaisant et naturel, s'empare d'elle soudainement, comme il s'empare des jeunes enfants au milieu même de leur jeu. Quoique la crise soit maintenant passée, quoiqu'il ne soit plus nécessaire de veiller sur elle, Madame Crayford garde toujours sa place auprès du lit, trop inquiète et trop attentive pour se retirer dans sa chambre. Dans les circonstances précédentes, elle avait l'habitude de chasser de son esprit les paroles qui étaient sorties de la bouche de Clara pendant ses accès. Cette fois, elle fit d'inutiles efforts pour y réussir. Les paroles de Clara ne cessent de revenir à sa pensée. Vainement, elle repasse dans sa mémoire tout ce que les docteurs lui ont dit en parlant de ce qu'éprouvait Clara pendant ses crises. Les craintes vagues qu'elle ressent de la perte de l'homme qu'elle aime se mêlent dans son esprit avec ce qu'elle lit constamment des épreuves, des périls, des sauvetages dont les mers du pôle Nord sont le théâtre. Les choses les plus étranges qu'elle peut dire ou faire, dans ses accès, doivent être toutes attribuées à cette cause et peuvent s'expliquer de la même façon. C'est ainsi qu'ont parlé les docteurs et c'est ainsi, jusqu'à présent, que Madame Crayford a partagé leur opinion. Ce n'est que cette nuit que les paroles de la jeune fille ont retenti à son oreille avec un accent singulièrement prophétique et elle se demande « Clara est-elle en esprit auprès de ceux que nous aimons et qui se sont perdus dans les solitudes des mers du pôle ? Ses yeux peuvent-ils voir les morts et les vivants égarés dans les déserts de la mer glaciale ?» La nuit s'est écoulée. De près et de loin, le jardin de la villa présente l'aspect le plus gai et le plus charmant sous les rayons du soleil du midi. Tout autour, on entend les bruits joyeux qui témoignent de la vie et du mouvement qui y règnent. Du jardin de la maison la plus voisine, arrivent les voix des enfants s'abandonnant à leur jeu. Le long de la route qui passe derrière cette maison, s'entend le roulement des voitures et des charrettes qui la parcourent. Sur la mer bleue, retentit au loin le bruit que font les palettes des roues des steamers en frappant l'eau et les coups de piston de leurs machines quand ces navires côtoient l'île en franchissant le détroit qui la sépare du continent. Sur les arbres, les oiseaux chantent gaiement au milieu du feuillage qui frémit sous la brise. Dans la maison, les servantes rient bien haut de quelques plaisanteries ou de quelques anecdotes qui les réjouissent pendant leurs occupations. C'était un moment plein de charme et de joyeuse animation. Les deux dames étaient assises dans le jardin, se reposant d'une promenade qu'elles venaient d'y faire. Elles échangèrent quelques paroles banales sur la beauté du temps, puis elles se turent. Gardant le souvenir de ce qu'elle avait vu pendant sa crise, comme on garde en général le souvenir de ce qu'on a vu dans un rêve, et prenant sa vision pour une révélation surnaturelle, Clara considérait maintenant dans son âme ses pressentiments les plus funestes comme autant de faits réalisés. Sa dernière et faible espérance de revoir jamais Frank s'était évanouie. L'intime connaissance qu'avait d'elle Madame Crayford faisait comprendre à celle-ci ce qui se passait dans l'âme de Clara et lui disait que s'efforcer de raisonner sa jeune amie et de lui adresser de sages remontrances serait perdre volontairement son temps et ses paroles. La disposition où elle-même s'était sentie un moment, la nuit précédente, d'attacher une importance superstitieuse à ce qu'avait dit Clara pendant son accès, avait disparu avec le retour de la clarté du jour. Le repos et la réflexion l'avaient calmée et avaient rendu à son bon sens tout son empire. Sympathisant avec Clara en toute autre chose, elle ne partageait pas, quand elles étaient assises toutes deux sous les rayons d'un splendide soleil, son désespoir dans l'avenir. Elle, qui pouvait encore espérer, n'avait rien à répondre à sa jeune amie qui avait perdu toute espérance. Les minutes se succédèrent ainsi paisiblement et les deux amies restèrent assises en silence à côté l'une de l'autre. Une heure s'écoula et la cloche de la porte de la villa se fit entendre. Toutes deux tressaillirent, toutes deux savaient ce qu'annonçait cette cloche. C'était l'heure où le facteur apportait leurs journaux de Londres. Que de fois, dans le passé, elles avaient déchiré la bande qui enveloppait ces journaux et regardé à la même colonne, avec la même impatience, mélangée d'espérance et de désespoir. Voilà aujourd'hui, comme hier, comme demain, si Dieu doit le permettre, voilà la servante avec les journaux de Lucie et de Clara à la main. L'une et l'autre feront-elles encore, aujourd'hui, comme elles ont fait tant de fois dans le passé. Non. Madame Crayford déchire la bande de son journal, comme de coutume, mais Clara dépose le sien intact sur une chaise du jardin. Madame Crayford regarde en silence, à la place où elle regarde toujours, à la colonne consacrée aux dernières nouvelles de l'étranger. Au moment où ses yeux tombent sur la page, elle tressaille en poussant un cri de joie. Le journal s'échappe de ses mains tremblantes. Elle serre Clara dans ses bras. « Ah, ma chérie, voici de leurs nouvelles, enfin !» Sans répondre, sans laisser voir aucun changement dans sa physionomie, Clara ramasse le journal tombé à terre et lit, en tête de la colonne et imprimé en lettres capitales, ces mots « L'expédition au pôle Nord ». Elle s'arrête et regarde Madame Crayford. « Avez-vous la force de m'entendre, Lucie ?» lui demanda-t-elle, « si je lis tout haut ?» Madame Crayford était trop agitée pour faire, à cette question, une réponse verbale. Elle fit signe à Clara, avec un air d'impatience, de continuer. Clara lut les nouvelles suivantes, qui étaient au-dessous du titre. « L'information qui suit, venue de Saint John, Terre-Neuve, nous est envoyée pour être publiée. On annonce que le baleinier Blythewood a rencontré les officiers et les matelots survivants de l'expédition dans le détroit de Davis. Plusieurs des explorateurs sont morts et quelques-uns sont indiqués comme manquant à l'appel. La liste des survivants connus, telle que l'a donnée l'équipage du baleinier, n'est pas garantie comme parfaitement exacte, les circonstances n'ayant pas été favorables à une investigation complète. Le navire était pressé par le temps et les membres de l'expédition, souffrant plus ou moins des fatigues et des privations qu'ils avaient endurées, n'étant pas en état de donner à l'enquête toute l'aide nécessaire. De plus amples détails sont attendus par le prochain courrier. Suivez la liste des survivants, commençant par les officiers dans l'ordre de leur grade. Les deux dames lurent ensemble la liste. Le premier nom était celui du capitaine Helding. Le second, celui du lieutenant Crayford. À ce nom, Madame Crayford ne put maîtriser sa joie. Après une pause, elle enveloppa de son bras la taille de Clara et lui dit « Oh, mon amour, êtes-vous aussi heureuse que je le suis? Le nom de Frank est-il aussi sur la liste? Les larmes m'aveuglent. Lisez pour moi, je ne puis lire moi-même. » Clara répondit, de son ton toujours triste, « J'ai lu jusqu'au nom de votre mari. Je n'ai pas besoin d'en lire davantage. » Madame Crayford essuya les larmes de ses yeux, se maîtrisa et lut la liste des survivants. Sur cette liste, ses recherches furent vaines. Le nom de Frank n'y figurait pas. Sur une seconde liste, intitulée « Morts ou manquants », les deux premiers noms qui s'offrirent à ses yeux furent ceux-ci. Francis Aldersley, Richard Wardour. Muette et terrifiée, Madame Crayford regarda Clara. Elle se demanda si celle-ci, dans le faible état de santé où elle était, aurait assez de force pour supporter le coup qui la frappait. Oui, Clara supporta ce coup avec une étrange résignation. Son regard, son langage, furent ceux d'une personne que le désespoir laisse en pleine possession d'elle-même. « J'étais préparée à cette nouvelle, » dit-elle. « Je les ai vues en esprit la nuit dernière. » Richard Wardour a découvert la vérité et cette découverte a coûté la vie à Frank. Et c'est moi, moi seule, qui suis à blâmer. » Elle frissonna et mit la main sur son cœur. « Nous ne serons pas longtemps séparés, Lucie. J'irai le rejoindre. Il ne reviendra pas me trouver ici. » Ces paroles furent dites avec le calme d'une conviction profonde. Elle faisait mal à entendre. « Je n'ai plus rien à dire, » ajouta-t-elle après une pause d'un moment. Et elle se leva pour entrer à la maison. Madame Crayford la prit par la main et la força à se rasseoir. « Ne me regardez pas, ne me parlez pas de cette effrayante façon, » dit-elle. « Dire ce que vous venez de dire n'est pas digne d'une personne raisonnable. C'est douter de la miséricorde divine. Relisez le journal. Voyez, il vous dit clairement que vous ne devez pas vous en fier entièrement à ces informations. » Il vous recommande d'attendre des détails ultérieurs. Les mots qui sont en tête de la liste disent combien peu il connaît la vérité. Mort ou manquant. De son propre aveu, il est tout aussi probable que Franck est au nombre des manquants qu'il est probable qu'il est au nombre des morts. Quoi que vous en disiez, le prochain courrier peut vous apporter une lettre de lui. M'entendez-vous, Clara ?
Oui.
Pouvez-vous nier ce que je dis ?
Non.
Oui, non. Est-ce ainsi que vous devez me répondre quand je suis si désolée et si inquiète à votre égard ?
Je suis fâchée d'avoir parlé comme je l'ai fait, Lucie. Nous sommes placés à deux points de vue différents. Je ne conteste pas que le vôtre ne soit raisonnable.
Vous ne contestez pas ? Répondit Madame Crayford. Non, mais vous faites pis. Vous abondez dans votre sens tout en ayant le journal devant vous. Croyez-vous ou ne croyez-vous pas au journal ?
Je crois à ce que j'ai vu la nuit dernière.
À ce que vous avez vu la nuit dernière. Vous, une femme qui avez reçu de l'éducation, une femme instruite, vous croyez à une vision de votre imagination, à un simple rêve ? Je m'étonne que vous ne soyez pas honteuse de l'avouer.
Appelez ça un rêve si vous voulez, Lucie. J'ai eu d'autres rêves à d'autres époques et j'ai trouvé qu'ils se réalisaient.
Oui, dit Madame Crayford, cela a pu arriver une fois par hasard et vous l'avez remarqué, vous vous en êtes souvenu, vous y avez planté votre foi. Voyons, Clara, soyez franche. Que pensez-vous des occasions où le hasard a tourné contre vous, où vos rêves ne se sont pas réalisés ? Vous vous ressemblez tous, pauvres gens superstitieux que vous êtes. Vous oubliez volontiers les rêves et les pressentiments qui se trouvent faux. Pour l'amour de moi, chère, sinon de vous-même, continua Madame Crayford avec l'accent de la douceur et de la tendresse, efforcez-vous d'être plus raisonnable, espérez encore. Ne perdez pas toute confiance en l'avenir, toute confiance en Dieu. Dieu qui a sauvé mon mari peut sauver Franck. Tant qu'il y a du doute, il y a de l'espoir. N'empoisonnez pas mon bonheur, Clara. Essayez de penser comme moi, ne fût-ce que pour me prouver que vous m'aimez. » Elle enveloppa de son bras le cou de Clara et l'embrassa. Clara lui rendit son baiser. Clara lui répondit, avec tristesse et soumission,
« Je vous aime, Lucie. J'essaierai. »
Après avoir dit ces mots, elle soupira et se tut. Il aurait été évident, trop évident à des yeux beaucoup moins clairvoyants que ceux de Madame Crayford, que ces paroles n'avaient produit aucune impression salutaire sur Clara. Elle avait cessé de défendre sa manière de voir, elle se taisait, mais la terrible conviction de la mort de Franck par les mains de Wardour n'en restait pas moins profondément enracinée dans son esprit. Découragée et désolée, Madame Crayford la laissa et rentra dans la maison. En approchant de la fenêtre du salon, Madame Crayford vit venir à elle un petit homme poli, aux yeux intelligents, aux manières aimables et gaies. Correctement vêtu de noir, comme l'exigeait sa profession, c'était, à l'entendre, un docteur très accrédité dans le pays, heureux et populaire dans un vaste cercle d'amis et de clients. Il courut au-devant d'elle, sur la pelouse, lui tendant les deux mains en signe de cordiales et courtoises félicitations. « Chère madame, acceptez mes sincères congratulations, s'écria-t-il. J'ai lu la bonne nouvelle qu'a publiée le journal et je ne saurais m'en réjouir plus que je le fais quand même j'aurai l'honneur de connaître personnellement le lieutenant Crayford. Nous comptons fêter dans ma famille cette bonne nouvelle. J'ai dit à ma femme, avant de sortir, une bouteille de vieux madère à dîner, aujourd'hui, ne l'oublie pas, pour boire à la santé du lieutenant, que Dieu bénisse. » Et comment va notre intéressante malade ? Les nouvelles ne sont pas, il s'en faut bien, ce que nous souhaiterions qu'elles fussent en ce qui la concerne. Je suis un peu impatient de savoir les faits qu'elles ont produits sur elle, c'est pourquoi je suis venu faire ma visite de meilleure heure qu'à l'ordinaire. Ce n'est pas que j'augure absolument mal de ces nouvelles, non, il est clair qu'un doute subsiste quant au sort de M. Aldersley, et c'est un grand point en sa faveur. Il lui donne le bénéfice de ce doute, comme disent nos légistes. Mademoiselle Burham voit-elle les choses du même œil ? J'ai grand-peine à le croire, je l'avoue.
Mademoiselle Burham m'a chagrinée et alarmée, répondit Madame Crayford. Je pensais précisément à vous faire appeler quand vous êtes arrivée. Après ce court préambule, elle raconta exactement au docteur ce qui était arrivé, lui répétant non seulement la conversation qu'elle avait eue avec Clara dans la matinée, mais aussi les paroles qui étaient tombées de la bouche de celle-ci dans son accès de la nuit dernière. Le docteur l'écouta attentivement. Peu à peu, son sourire banal disparut et fit place à un air grave et pensif. « Allons la voir, » dit-il. Arrivé auprès de Clara, il s'assit à côté d'elle et étudia curieusement sa physionomie pendant qu'il lui tâtait le pouls. Il n'existait aucune sympathie entre le caractère rêveur et mystique de la malade et les idées droites et pratiques du docteur. Au fond, Clara n'aimait pas son médecin. Elle ne se soumettait qu'avec impatience aux investigations dont elle était l'objet de sa part. Il la questionna et elle lui répondit avec une certaine irritation. Puis, le docteur n'était pas un homme facile à décourager, il fit allusion aux nouvelles qu'on avait reçues de l'expédition et s'engagea dans la voie des sérieuses remontrances où était entrée déjà Mme Crayford. Clara refusa d'accepter la discussion là-dessus. Elle se leva et, avec une politesse affectée, lui demanda la permission de rentrer chez elle. Il ne fit aucun effort pour la retenir. « Vous en êtes parfaitement libre, Mlle Burnham. » lui répondit-il d'un air résigné, après avoir lancé à Mme Crayford un coup d'œil qui semblait dire « Restez ici avec moi !» Clara fit une révérence silencieuse pour le remercier et les laissa ensemble. Les yeux pénétrants du docteur suivirent la physionomie dévastée mais encore gracieuse de la jeune fille, pendant qu'elle se retirait lentement, d'un air plein d'une profonde tristesse que Mme Crayford remarqua et dont elle conçut un funeste augure. Le docteur garda le silence jusqu'au moment où il vit Clara disparaître dans la véranda qui régnait autour de la villa. « Je crois que vous m'avez assuré, dit-il alors, que Mlle Burnham n'a plus ni père ni mère. »« Oui, Mlle Burnham est orpheline. »« Elle n'a plus aucun parent. »« Vous pouvez me parler comme à sa tutrice et à son amie. »« Êtes-vous alarmé de son état ?»« J'en suis sérieusement alarmé. » Il n'y a que 2 jours que je l'ai vue et je constate un changement notable dans sa situation. Physiquement et moralement, cette situation a empiré. N'en concevez pas cependant des craintes par trop excessives. Le mal, j'en ai la confiance, n'est pas absolument sans remède. Ma grande espérance, c'est que M. Aldersley puisse être encore vivant. Dans ce cas, je ne préjugerai pas mal de l'avenir. Son mariage lui rendrait la santé et le bonheur. Mais dans l'état actuel des choses, je redoute, je l'avoue, cette conviction qui s'est enracinée en elle, que M. Aldersley n'est plus et que sa propre mort doit suivre bientôt celle du jeune homme. Cette idée la poursuivant, comme il est certain qu'elle la poursuivra nuit et jour, exercera la plus fatale influence sur sa santé aussi bien que sur son esprit. À moins que nous ne puissions arrêter le progrès du mal, ce qui lui reste de force n'y résistera pas. Si vous voulez consulter quelque autre docteur, n'hésitez pas à le faire. Quant à moi, je vous ai dit ce que je pense. « Je m'en rapporte entièrement à votre opinion, » répondit Mme Crayford. « Pour l'amour de Dieu, dites-moi ce que nous pouvons faire. »« Nous pouvons essayer un changement de lieu, » dit le docteur. « Nous pouvons essayer de la transporter dans une autre localité. » « Elle se refusera à quitter celle-ci, » répliqua Mme Crayford. « Je lui ai proposé ce changement et elle m'a toujours répondu négativement. » Le docteur se tut un moment comme un homme qui recueille ses idées. « J'ai appris en venant ici, » reprit-il, « quelque chose qui me suggère un moyen de résoudre cette difficulté. À moins que je ne me trompe grandement, Mlle Burnham ne se refusera pas au projet de changement que j'ai en vue pour elle. » « Quel est ce projet ?» s'empressa de demander Mme Crayford. « Avant de vous répondre, permettez-moi de vous adresser une question. Avez-vous, par hasard, quelques connaissances dans les bureaux de l'amirauté ?»« Certainement. Mon père est dans le bureau du secrétariat et deux lords de l'amirauté sont ses amis. »« C'est à merveille. Maintenant, je puis m'expliquer clairement, sans crainte de vous désappointer. » D'après ce que je vous ai dit, vous conviendrez avec moi que le seul changement dans l'existence de Mlle Burnham qui puisse lui être salutaire serait un changement qui modifierait sa manière de penser au sujet de M. Aldersley. Placez-la dans une situation qui lui permette de découvrir, non en s'en rapportant à ses visions imaginaires et fantastiques, mais à des preuves réelles, à des faits réels, si M. Aldersley est mort ou vivant, et ses illusions hystériques, qui maintenant minent fatalement sa santé, disparaîtront. Même en mettant les choses au pire, même en supposant que M. Aldersley ait péri dans les mers du pôle, il sera moins dangereux d'acquérir la certitude positive de ce fait que de se nourrir de ses funestes et imaginaires superstitions pendant des semaines entières, en attendant l'arrivée des prochaines nouvelles de l'expédition. En un mot, je désire que vous mettiez, avant la fin de la présente semaine, les convictions actuelles de Mlle Burnham à l'épreuve. Supposons que vous lui teniez ce langage. Nous différons d'opinion, ma chère, sur le sort de Francis Aldersley. Vous prétendez, sans l'ombre d'une preuve à l'appui, qu'il est certainement mort et qui, pisé, meurt de la main d'un des officiers ses camarades. J'affirme, sur l'autorité du journal, que rien de semblable n'est arrivé et qu'il y a tout lieu de croire qu'il vit encore. Que diriez-vous du projet de franchir l'Atlantique et d'aller voir qui de nous deux a raison, de vous ou de moi? Pensez-vous que Mlle Burnham repousserait cette proposition, Madame Crayford? Ou je connais peu le cœur humain, ou je suis certain qu'elle saisira cette occasion de vous convertir à sa croyance dans la seconde vue. Bon Dieu, docteur, voulez-vous dire que nous devons nous embarquer et aller au-devant de l'expédition? Vous avez parfaitement compris ma pensée, Madame Crayford. C'est exactement là ce que je veux dire. Mais comment réaliser ce projet? Je vais vous l'apprendre tout de suite. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que j'avais appris d'un fait en venant ici? Oui. Eh bien, j'ai rencontré un vieil ami en sortant de chez moi qui m'a accompagné une partie du chemin. Hier au soir, il a dîné avec l'amiral à Portsmouth. Parmi les convives se trouvait un membre du ministère qui avait apporté de Londres la nouvelle publiée par les journaux et relative à l'expédition. Ce ministre nous a appris qu'il n'était pas douteux que l'amirauté n'envoyât immédiatement un navire à vapeur à la rencontre des hommes recueillis sur les côtes d'Amérique pour les ramener en Angleterre. Attendez un peu, Madame Crayford. Nul ne sait jusqu'à présent quelles règles présideront à l'envoi de ce navire. Dans des cas à peu près pareils, des personnes privilégiées ont été admises comme passagers, ou pour mieux dire, comme hôtes, sur le vaisseau de Sa Majesté, et le privilège accordé alors peut être accordé encore aujourd'hui. Je n'en dirai pas plus. Si vous n'êtes pas effrayé de faire ce voyage pour vous-même, je ne doute pas, que dis-je, j'ai la certitude, au point de vue médical, qu'il sera salutaire à ma malade. Qu'en dites-vous? Voulez-vous écrire à votre père et lui demander ce qu'il est en position d'obtenir de ses amis de l'amirauté? Madame Crayford se leva tout émue de son siège. Écrire? S'écria-t-elle. Je ferai mieux que d'écrire. Un voyage à Londres n'est pas une grande affaire et je puis me fier à ma femme de charge pour prendre soin de Clara en mon absence. Je verrai mon père ce soir. Il fera agir ses amis de l'amirauté. Vous pouvez y compter. Oh, mon cher docteur, quelle perspective vous m'ouvrez là! Mon mari, Clara, quelle découverte vous avez faite! Quel trésor vous êtes! Et comment puis-je assez vous remercier? Calmez-vous, chère madame, ne comptez pas trop à l'avance sur le succès. Il faut, avant tout, savoir si Mlle Burnham ne fera pas d'objection à notre projet. Et puis, il n'est pas impossible que les lords de l'amirauté ne le détruisent par un refus. Les lords sont hommes, après tout, et les hommes ne sont pas dans l'habitude de me dire non. Ils se séparèrent. Une semaine après ce jour, le vaisseau de Sa Majesté l'Amazone voguait vers le nord de l'Amérique. Quelques personnes, qui prenaient un intérêt spécial aux membres de l'expédition polaire, avaient obtenu le privilège d'occuper les chambres d'officiers vacantes à bord du navire. Sur la liste de ces hôtes favorisés, on lisait les noms de deux dames, Madame Crayford et Mademoiselle Burnham.